Ils étaient de couleur verdâtre et avaient le ventre blanc. Leur peau semblait luisante et lisse, mais leur échine se hérissait d'écailles. Leur corps, vaguement anthropoïde, se terminait par une tête de poisson, aux yeux saillants toujours ouverts. Sur le côté de leur cou s'ouvraient des ouïes palpitantes, et leurs longues pattes étaient palmées. Ils avançaient par bonds irréguliers, tantôt sur deux pattes, tantôt sur quatre. Leur voix coassante avait toutes les nuances d'expression dont leur visage était dépourvu. H.P. Lovecraft, Le cauchemar d'Innsmouth. Il existe deux types d'histoires dans Elden Ring. L'histoire que le jeu veut bien nous montrer, cryptique certes, mais visible de tous, dialogue avec les personnages, narration environnementale, description des objets, cette histoire a beau demander un investissement et un certain travail de recherche, elle reste accessible à tout un chacun. C'est d'ailleurs cette histoire que je vous raconte depuis plus d'un an maintenant. Et puis il y a l'histoire cachée, celle qui se terre dans les limbes, derrière le code du jeu, accessible seulement aux plus fervents et bien nommés data miners. Ces érudits du code qui depuis des mois maintenant parcourent les fichiers du jeu pour tenter de mettre la main sur une quête oubliée, un ennemi non utilisé ou un concept de zone qui n'aura pas abouti. Ainsi, aux côtés de Vaatividia et autres conteurs de lore, on a vu fleurir des archéologues, des explorateurs du passé, des Uli the Witch, qui ont permis par exemple de découvrir une quête non utilisée entourant le personnage de Mikaela. Si les deux pratiques sont foncièrement différentes, elles ne s'opposent en rien, au contraire, elles se complètent, et les actions conjointes des trackers de lore et des data miners permettent aujourd'hui de reconstituer l'univers contorsionné et fragmenté de ces jeux. C'est justement cette histoire cachée qui va nous intéresser aujourd'hui, et plus précisément celle d'une carte, que tout le monde semble avoir oubliée. Il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, lors de la première bêta fermée d'Elden Ring, les joueurs ont eu accès à une map qui n'a plus grand chose à voir avec celle à votre disposition aujourd'hui. On y trouve un dialecte à l'époque indéchiffrable, des créatures marines ou des lieux qui ne portent pas le même nom. Vous vous en doutez, après des mois à avoir parcouru l'histoire et l'univers d'Elden Ring, cet embryon de carte a forcément fini par attirer mon attention. Et ce n'est que grâce à l'action d'un groupe de joueurs chinois que les mystères l'entourant ont enfin pu être levés. Hello à tous, c'est Ludic, plongeons ensemble dans l'histoire de la carte perdue d'Elden Ring. Qui ne s'est pas retrouvé émerveillé en découvrant l'entièreté de la carte de l'Entre-Terre ? Pourtant, pour les joueurs vétérans des Souls, le fait d'avoir une carte à disposition pouvait être avant la sortie du jeu une source d'inquiétude. À une époque où les cartes dans le jeu vidéo pullulent de signalétiques, de symboles et d'icônes à tout va, From Software ne risquait-il pas de perdre de son mystère, ou tout du moins de son mystère géographique ? Mais nos craintes étaient alors infondées, tant cette carte a été pensée pour renforcer ce mystère, pour suggérer l'exploration et titiller l'imaginaire. Elle pourrait sortir tout droit de la poche d'un explorateur du XVIe siècle, que cela ne nous surprendrait pas. C'est certainement d'ailleurs la principale source d'inspiration pour ses développeurs. Si on commence à regarder des cartes de cette époque, comme la carte du monde de Paolo Forlani ou la Carta Marina d'Olaus Magnus, ces œuvres se font clairement écho, tout comme elles font écho à la carte d'Elden Ring qui en reprend la substantifique moelle. Comment ne pas avoir envie d'aller jeter un œil derrière cet arbre, ou à flanc de cette falaise ? Cette carte est un appel constant à l'exploration, et si vous y voyez un élément, que ce soit une pierre, un renfoncement ou une tour, c'est que cela s'y trouve, et qu'il y aura certainement quelque chose à y trouver. Tout cela est renforcé par une signalétique extrêmement simple, à savoir les sites de grâce et quelques symboles reconnaissables, arbres, grottes, cavernes, églises. Et c'est ce qui fait que cette carte est aussi forte par ce qu'elle montre que par ce qu'elle ne montre pas. Vous savez qu'il y a une grotte à cet endroit, mais il n'y a aucun autre moyen de savoir ce qui se trouve à l'intérieur qu'en vous y rendant. Tel un aventurier, vous pourrez aussi y apposer vos propres marqueurs, épées, crânes, fleurs, etc. Mais à aucun moment le jeu ne vous dira à quoi correspondent ces marqueurs. Ce sera à vous de faire marcher votre imaginaire et définir à quoi ils correspondront pour vous. Enfin, la force principale de la carte, c'est qu'elle vous sera au début cachée. Vous n'aurez accès qu'à une toute petite portion et il vous faudra trouver des fragments au pied de stèles qui parsèment le monde pour dévoiler la région autour de vous comme un explorateur qui dévoilerait petit à petit une terre jusque-là inconnue. Je parlais de ce qu'elle ne montre pas, et en effet la carte d'Elden Ring recèle encore aujourd'hui des mystères non résolus. Si on prend du recul et qu'on la regarde dans son entièreté, on pourra voir dans sa forme globale celle d'un doigt crochu, un objet que l'on trouve en plusieurs exemplaires dans l'inventaire. Il existe également dans l'entre-terre 6 tours divines, au sommet desquelles on peut activer les runes majeures. Si on trace un trait entre les différentes tours, on constate qu'elles forment un hexagone, au centre duquel se tient un nuage, ce qui a évidemment suscité quelques interrogations. Il n'en fallait pas plus aux data miners pour aller voir ce qui s'y trouve, mais malheureusement, rien à signaler si ce n'est une dalle non texturée, sans importance a priori. Néanmoins, cela témoigne du mystère que cette carte aura su suggérer aux joueurs, et comme souvent, From Software aura réussi à s'emparer d'une mécanique pour le moins triviale, une carte, chose que l'on retrouve dans tous les jeux aujourd'hui, pour en faire l'un des éléments primordiaux de son jeu, l'intégrant parfaitement au mysticisme qui entoure son univers. Revenons maintenant au sujet principal de cette vidéo, la fameuse carte perdue dont je vous parlais en introduction, une ancienne version de la carte de Nécrolimbe, récupérée et déchiffrée depuis par un groupe de joueurs chinois. Sur cette dernière, on aperçoit des créatures marines, des bateaux et des inscriptions mystérieuses n'apparaissant pas dans la carte définitive. Si à la base les joueurs ont pu penser qu'il s'agissait tout simplement d'une déclinaison quelconque d'écriture runique, un joueur chinois finit par reconnaître l'alphabet Yi, un dialecte extrêmement rare en Chine. Petite subtilité, il ne s'agit pas de Yi à proprement parler, mais de mots japonais traduits phonétiquement dans cet alphabet. Il fallait y penser, vous en conviendrez. Une fois déchiffrées, ces inscriptions dévoilent un certain nombre de mots et phrases, certaines très triviales, comme les noms des développeurs ou des marques de moto. Il y est également fait mention des quatre mers entourant la zone, pointées par des points cardinaux, nord, sud, ouest, est, et, chose plus intéressante, on retrouve à de multiples reprises des mises en garde devant les dangers que pourraient représenter ces mers. Attention, n'écoutez pas les chants mensongers des sirènes, peut-on lire à côté de cette créature, tout droit sortie de la carte du monde de Paolo Forlani, déjà mentionnée plus tôt. Une référence évidente aux sirènes des mythes nordiques, capables d'envoûter les navigateurs. Plusieurs références également au Moskenstromen Maelstrom, un courant marin existant réellement en Norvège, mais souvent décrit et élevé au rang de mythe dans les nouvelles de Jules Verne et Edgar Allan Poe. Des mentions faites au Kraken et un poulpe colossal, issu de l'histoire naturelle générale de Pierre de Montfort. Mais c'est dans la Carta Marina d'Olaus Magnus que les développeurs sont allés chercher leur principale inspiration, ce serpent de mer rouge dévorant un navire, ou ces baleines crachant de l'eau par le dessus de leur tête. Enfin, c'est sans aucun doute l'Ortus sanitatis que j'ai pris le plus de plaisir à parcourir. Cet herbier, sorti en 1491, recense toutes sortes d'espèces imaginaires, et par exemple, ce poisson à 8 pattes présent sur notre carte perdue. Je suis tombé fasciné devant l'iconographie de cet ouvrage, tant il y a d'images qui font écho à l'univers d'Elden Ring. C'est en parcourant cette banque d'images que j'ai fini par tomber sur celle-ci, qui m'a furieusement fait penser à Godwin, le prince de la mort. Ce corps de sirène, cette longue chevelure, et tout autour, le serpent qui se mord la queue, l'Ouroboros. Je l'ai déjà évoqué dans mes précédentes vidéos, mais l'Ouroboros est intimement lié à la figure de Godwin. Mais ce qui a plus que tout attiré mon attention est une inscription terrestre qui a été traduite avec difficulté et présentant Nécrolimbe comme le continent du dieu de la mer. Alors existait-il à l'origine une divinité des mers dans Elden Ring ? Après consultation, il s'agit probablement d'une légère erreur de traduction de la part du groupe chinois, puisque le terme Rita ou Ritan qui est lu ici fait certainement référence à Litan ou Laton en français, le serviteur du dieu de la mer Yam dans le mythe Ougarit. On ne parle donc pas textuellement du dieu de la mer ici, mais plutôt du serviteur du dieu de la mer, souvent rapproché du Léviathan ou de Jormungandr, le serpent-monde, également appelé Ouroboros, on y revient. Retenez bien tout ça, car on va en reparler dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, cette carte oubliée transpire le fantastique et la mythologie par tous les pores, et il est passionnant de voir comment FromSoft a tenté de suggérer le mystère sur tout ce qui entoure le monde maritime de l'Entre-Terre. Alors, que reste-t-il de cette carte perdue ? Les créatures maritimes ont disparu, les phrases codées en Yi également. Il ne reste que les navires et le Maelstrom comme un symbole, un ultime clin d'œil à cette première carte et à l'imaginaire fantastique. Pour autant, la notion de vie maritime a-t-elle complètement disparu d'Elden Ring ? Vous connaissez la réponse, pas du tout. Elle est bien toujours présente au travers des méduses, des langoustes, ou encore des crabes, particulièrement présents dans la zone de Liurnia et de son lac qui apparaît comme un vestige de cette vie maritime tourmentée. Dans une de ses récentes vidéos, Zully the Witch évoquait même un boss maritime non utilisé par From Software, sobrement appelé Umibozu dans les fichiers du jeu. Le Umibozu est une créature connue du folklore japonais, que l'on retrouve dans de nombreuses œuvres. Un esprit qui attaque et coule les bateaux, parfois dépeint comme vaguement humanoïde, parfois comme quelque chose de plus monstrueux. Un boss que l'on aurait pu affronter sur les rivages de l'Entre-Terre, un peu à l'image des hydres de Dark Souls, peut-être dans un futur DLC, allez savoir. Mais comment pourrais-je parler du monde maritime d'Elden Ring sans évoquer la transformation plus que mystérieuse de Godwin ? Une queue de sirène, des mains palmées et un coquillage en guise de tête dont dépassent les cheveux dorés de l'ancien demi-dieu. Comme source d'inspiration, la même Zully the Witch évoquait dans une autre vidéo le Ningyo, un autre monstre du folklore japonais, poisson sirène maudit avec des membres humains. Capturer un Ningyo apporte malchance, et quiconque consomme sa chair est maudit d'une longévité non naturelle. Un mythe central dans Sekiro, où le dragon divin portait le nom de Ningyo Ryu dans les fichiers du jeu. Mais comme souvent avec FromSoft, je pense que c'est du côté des mythes lovecraftiens qu'il faut aller chercher la source, et plus précisément du côté du peuple des profondeurs apparaissant dans la nouvelle Le Cauchemar d'Innsmouth. Des créatures à tête de poisson et gardant les yeux toujours ouverts, qu'on peut d'ailleurs soupçonner d'être également une source d'inspiration pour les albinoriques. Là où ça devient intéressant, c'est que ceux des profondeurs vénèrent une divinité du nom de Dagon, un monstre ichthyoïde qui a d'ailleurs eu droit à sa propre nouvelle et qui est déjà une réutilisation de la part de Lovecraft du dieu des semences Dagon dans les mythes ougarites. Les mythes ougarites, ça vous rappelle quelque chose? Eh oui, c'est de là que vient notre Litan ou Laton, le serpent serviteur du dieu de la mer. Et on a ainsi un lien logique qui s'établit entre les mythes lovecraftiens, ceux des profondeurs, Dagon et les mythes ougarites. Et ça ne s'arrête pas là, car si on commence à chercher des représentations de Dagon dans la mythologie ougarite, on tombe sur ce genre d'illustration, un homme avec un corps de sirène. Alors que faut-il en tirer ? Eh bien que Lovecraft et la mythologie autour du dieu de la mer et du serpent-monde sous toutes ses formes sont une grosse source d'inspiration pour From Software. Faut-il pour autant en conclure l'existence d'une divinité des mers dans Elden Ring? C'est possible. Godwin pourrait-il avoir un lien avec tout ça? Possible aussi. Ce qui semble évident, c'est que tous ces éléments, les albinoriques, les méduses, les crabes, la transformation ichthyoïde de Godwin, tout ça pourrait faire partie d'un seul et même tout qui se serait éparpillé. On a par exemple remarqué que certains crabes au niveau du plateau Altus arboraient le visage du prince de la mort, et j'aurais pu également évoquer les Nochés diaphanes, ces êtres étroitement liés à la Malmort et à Godwin, et qui se déplacent en barque dans les endroits gorgés d'eau. Bref, nous n'aurons probablement jamais de vraies réponses à toutes ces interrogations, mais cela donne en tout cas quelques pistes et sources d'inspiration possibles pour expliquer la transformation de Godwin et tout ce qui tourne autour du monde maritime dans Elden Ring. C'est la fin de cette vidéo, merci si vous m'avez écouté jusqu'au bout, cela a été un vrai plaisir de vous proposer ce sujet, que ce soit sur le travail de recherche ou d'écriture. Cette carte perdue d'Elden Ring est un trésor d'informations pour quiconque tente d'expliquer et d'interpréter le lore du jeu, alors même si ces éléments n'ont pas eu leur place dans le jeu final, j'espère au moins que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Je le rappelle, si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le faire sur la page Tipeee de la chaîne. De mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao !